c'est tout bon? D'accord, merci bien. Et donc, eh bien, pour ceux qui étaient ici avec nous il y a quelques semaines, j'ai parlé des miracles et de combien les miracles pouvaient à la fois nous encourager dans la vie chrétienne, mais n'étaient pas du tout nécessaires pour se tourner vers Dieu, pour croire, pour avoir la foi. Et j'aimerais faire un petit peu, reprendre un peu ce thème, le thème de la foi. Et donc, vous allez comprendre que ça va toucher un petit peu aussi les miracles, mais surtout l'importance de qu'est-ce que la foi et comment notre foi peut être à la fois forte, grande ou petite. Alors, j'espère que nous quitterons ces lieux avec une foi qui grandit, parce que c'est un petit peu le but de la vie chrétienne, c'est d'avoir une foi qui ne stagne pas, une foi qui est en croissance. Alors donc, nous allons faire deux lectures, mais je vais citer beaucoup d'autres textes dans l'Écriture, après quoi nous prierons et nous entrerons dans le vif du sujet. Alors nous allons faire deux lectures, une dans l'évangile de Matthieu au chapitre 8, les versets 5 à 13. L'autre sera dans l'évangile de Marc au chapitre 4, les versets 35 à 41. Je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole de Dieu. Et je vous rappelle que c'est la parole inspirée de Dieu. Donc toute notre autorité vient de cette parole. Et donc, écoutons attentivement ce que Dieu nous dit. Matthieu, chapitre 8, versets 5 à 13. Jésus entrait à Capernaum quand un officier romain l'aborda. Il le supplia. « Seigneur, mon serviteur est couché chez moi. Il est paralysé. Il souffre terriblement. Je vais chez toi, lui répondit Jésus, et je le guérirai. « Seigneur, dit alors l'officier, je ne suis pas qualifié pour te recevoir dans ma maison, mais tu n'as qu'un mot à dire, et mon serviteur sera guéri. Car moi-même, je ne suis qu'un officier subalterne, mais j'ai des soldats sous mes ordres, et quand je dis à l'un « va », il va. Quand je dis à l'autre « viens », il vient. Quand je dis à mon esclave « fais ceci », il le fait. » En entendant cela, Jésus fut rempli d'admiration, et s'adressant à ceux qui le suivaient, il dit « Vraiment, je vous l'assure, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Je vous le déclare, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place à table auprès d'Abraham, d'Isaac et de Jacob dans le royaume des cieux. Mais ceux qui devaient hériter le royaume, ceux-là seront jetés dans les ténèbres du dehors. C'est là qu'il y aura des pleurs et d'amers regrets. Puis Jésus dit à l'officier, « Rentre chez toi, et qu'il te soit fait selon ce que tu as cru. » Et à l'heure même, son serviteur fut guéri. Donc la deuxième lecture dans l'évangile de Marc, au chapitre 4, les versets 35 à 41. Ce jour-là, quand le soir fut venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons de l'autre côté du lac. » Ils laissèrent la foule et emmenèrent Jésus sur le lac, dans la barque où il se trouvait. D'autres bateaux les accompagnaient. Or voilà qu'un vent très violent se mit à souffler. Les vagues se jetaient contre la barque qui se remplissait d'eau. Lui, à l'arrière, dormait, la tête sur un coussin. Les disciples le réveillèrent et lui crièrent, « Maître, nous sommes perdus, et tu ne t'en soucies pas. » Il se réveilla, parla sévèrement au vent et ordonna au lac, « Silence, tais-toi. » Le vent tomba, et il se fit un grand calme. Puis il dit à ses disciples, « Pourquoi avez-vous si peur? Vous ne croyez pas encore ?» Mais eux furent saisis d'une grande crainte. Ils se disaient les uns aux autres, « Qui est donc cet homme pour que même le vent et le lac lui obéissent ?» Je vous invite à la prière. Éternel notre Dieu, nous sommes reconnaissants que tu nous as laissé ta parole, une parole qui, à travers les siècles, a non seulement parlé, non seulement transformé les vies, mais s'est trouvée être vraie dans tous les siècles. Elle a traversé toutes sortes d'épreuves et elle est toujours ressortie victorieuse, car c'est ta parole et l'homme ne pourra jamais complètement l'enlever, ne pourra jamais arrêter ton œuvre. Cette même parole, Seigneur, qui a transformé tant de vies dans toute l'histoire, cette même parole est puissante aujourd'hui encore. Elle parle et donne-nous de l'écouter avec foi, dans la confiance, non seulement dans l'Esprit Saint qui a soufflé ceux qui ont écrit cette parole, mais ce même Esprit Saint qui veut maintenant l'appliquer à nos cœurs. Ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par la vérité. Amen. Bien, je vous invite à vous asseoir. Alors Jésus nous promet de nous donner tout ce que nous lui demandons, si nous le demandons avec foi. Qu'est-ce que cela veut dire? Au centenier romain, Jésus n'a-t-il pas dit « qu'il te soit fait selon ta foi » À cette femme de Canaan, dans Matthieu 15, 21, on n'a pas lu ce texte, mais vous connaissez sans doute l'histoire, cette femme qui a un fils, qui a un démon, elle vient voir Jésus, mais elle n'est pas israélite, et Jésus lui dit, d'abord, comme on dit au Québec, elle l'achale, elle l'agace, elle est constamment après lui, et finalement les disciples lui disent, chasse-la, et Jésus dit, mais qu'est-ce que tu veux, femme, et ne sais-tu pas que je suis là pour les enfants d'Israël, et... il y a une table pour eux, et elle dit, « Si les miettes de la table tombent, que ces miettes soient pour moi. » Et elle fait référence aux chiens qui viennent manger ces miettes. Et Jésus est très touché par cela, et lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veux. » Et puis, vous vous souvenez peut-être aussi de cette autre femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, qui se frayait un passage, bousculait un petit peu tout le monde pour venir seulement toucher Jésus. Elle s'est dit, si je peux toucher ne serait-ce que son vêtement, je serai guéri. Jésus ne lui a-t-il pas dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Et puis il y a aussi cet épisode de Matthieu 21, 22 où Jésus et ses disciples marchent le long de la route. Jésus a faim, il voit un figuier avec des belles feuilles, mais il n'y a pas de fruits. Alors Jésus dit dans Matthieu 21, 19, 22, « Que jamais fruit ne naisse de toi. » Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, « Comment ce figuier est-il devenu sec en un instant ?» Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Alors, est-ce que nous réalisons ce que Jésus est en train de dire? Qu'il te soit fait selon ta foi. Ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu le veux. Ta foi t'a sauvé. Va en paix, sois guéri de ton mal. Tout ce que vous demandez avec foi par la prière, vous le recevrez. Pour ceux qui connaissaient cette paroisse il y a bien des années, lorsque nous l'avons créée, vous avez peut-être entendu parler de David Voss. David Voss était un de mes amis de faculté de théologie, et nous connaissions bien. Il est venu nous aider ici, lorsqu'on a créé l'église, et un jour, dans une sortie d'église, David est tombé. Il est tombé d'un arrêt cardiaque, il ne s'est jamais relevé. C'était un traumatisme pour cette jeune paroisse. Et je me souviens, lorsqu'il se décroulait, nous avons prié, nous avons supplié Dieu de le ramener à la vie. Et sur le lieu de la tragédie, pendant plus d'une heure, nous avons prié avec foi, demandé à Dieu que Dieu le relève. On a cité l'Écriture, on a cité tous ces textes. Et Dieu ne l'a pas relevé. Alors, est-ce que cela veut dire que nous n'avions pas une foi assez grande pour que Dieu exauce notre prière? Est-ce que cela veut dire qu'il n'y avait peut-être parmi nous une seule personne qui n'avait pas cette foi, ou alors une seule qui avait la foi pour que Dieu exauce la prière? Si nous avions eu l'apôtre Paul au milieu de nous, est-ce que David se serait relevé? Si c'est le cas, je vous avoue que je n'ai plus tellement envie de prier, parce que je n'ai pas tant supplié Dieu, étant cru que Dieu allait nous redonner David en pleine santé. Mais, si notre manque de foi était la cause du refus de Dieu de nous rendre David, alors il nous faudrait dire que le plus grand des apôtres, l'apôtre Paul, qui a demandé à Dieu à trois reprises de le guérir d'un handicap apparemment très pénible, n'avait pas assez de foi lui-même parce que Dieu lui a refusé sa requête. Et donc Dieu répond toujours à nos prières. Mais répondre à nos prières n'est pas synonyme d'exaucement de toutes nos requêtes. Dieu peut répondre par un oui. Dans sa sagesse, dans sa bonté, s'il considère que c'est le meilleur, il dira oui et se servira de notre prière pour accomplir sa volonté. Mais Dieu peut répondre par un non, même si nous ne comprenons pas. L'apôtre Paul n'a sûrement pas compris un tel refus. On peut imaginer tout ce qui s'est passé dans la tête de l'apôtre Paul. En tout cas, c'est ce qui se passerait dans ma tête. D'abord, son besoin de bien voir, pour voyager, pour visiter les églises, mais aussi pour pouvoir écrire ses lettres aux églises. Il est obligé d'utiliser un secrétaire pour écrire à sa place. Nous voyons ça dans Galates 6:11. Il dit « Voyez avec quelles grandes lettres je vous écris de ma propre main ». Quand il n'y a pas de secrétaire, c'est lui qui écrit, mais il est obligé d'écrire avec des grandes lettres. Ou encore Paul s'est peut-être dit, « Moi qui ai pu ressusciter cet homme qui est tombé du 4e étage, pourquoi ne suis-je pas au moins guéri moi-même ?» Ou encore, il aurait pu dire, « Seigneur, imagine à quel point les gens verront ta puissance si tu me guéris. Alors fais-le pour eux, si ce n'est pas pour moi. » Paul a demandé à Dieu trois fois de le guérir de ce mal et trois fois Dieu lui a dit « Non, ma grâce te suffit ». Parfois Dieu répond à nos prières en disant également « Attends » et continue à prier. Et c'est ce que nous appelons la persévérance dans la prière et c'est souvent d'ailleurs lié au jeûne. Dieu n'a pas fait la promesse de guérir tous ceux qui le demandent. Mais il a fait la promesse de répondre à toutes nos prières. Alors cela veut dire que la prière de la foi, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez, implique une foi qui s'en remet totalement à Dieu. Implique une foi qui croit dans la bonté parfaite de Dieu. Une foi qui croit dans la souveraineté de Dieu. Une foi qui croit dans la sagesse de Dieu qui nous dépasse, qui dépasse notre intelligence, notre entendement. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière implique une foi qui va bien au-delà de notre requête. Car c'est une confiance totale en un Dieu qui ne fait pas d'erreur. Une confiance totale en un Dieu qui dit que tout concourt au bien de ceux qui l'aiment. Même si temporairement les circonstances semblent démontrer le contraire. C'est une confiance totale qui va bien plus loin que la simple requête que celle-ci soit exaucée ou non. De plus, lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, même avec une très grande foi, ce n'est pas par une promesse claire dans l'Écriture, une promesse de sa parole. Comment sommes-nous appelés à formuler cette requête? Qu'est-ce que nous prions? Vous vous souvenez dans le Notre Père. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ainsi, le tout, ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez, doit être compris à la lumière du reste de l'Écriture. À savoir qu'en dehors des promesses claires de Dieu, que nous pouvons formuler nos requêtes en les soumettant à la volonté de Dieu. Maintenant, tout ceci étant dit, parlant de la foi, il est quand même bel et bien question de petite et de grande foi dans l'Écriture, de foi faible et de foi forte. Et les deux textes que j'ai choisis pour ce soir nous montrent quelque chose de très intéressant quant à la dimension de cette foi dont nous parlons, de cette grande ou petite foi. D'abord, relevons quelque chose de fondamental. Quand on parle de la foi, il faut bien garder dans l'esprit que c'est Dieu qui nous donne cette foi. Ça ne vient pas de nous. C'est un cadeau de Dieu. Éphésiens 2, 8 et 10 le dit très clairement. Nous recevons la foi de Dieu et Dieu nous appelle à la faire grandir. Selon 1 Corinthiens 12, 4 et 9, il est également question d'un don particulier de la foi. Et l'histoire de Georges Müller, si vous avez lu son livre fascinant, on voit un homme qui a reçu ce don de la foi, qui a géré entièrement un orphelinat par la foi, est un exemple très clair de ce don particulier. Mais si tous les chrétiens n'ont pas reçu le don particulier de la foi, par contre, tous ont reçu la foi. Une foi qui, comme un muscle, est appelée à se développer. Une foi qui, comme un muscle, se développe seulement par l'exercice. L'exercice de la foi. Revenons à nos deux textes ce soir, car il est question donc d'une grande foi et d'une petite foi. Dans le texte de Matthieu 8, il est question de ce centurion romain qui demande à Jésus de guérir son serviteur. Jésus propose d'aller dans la maison de celui-ci, mais le centurion dit que ce n'est pas nécessaire. Il dit une seule parole suffira. Qu'est-ce qui pousse ce centurion à dire une telle chose? Alors je ne sais pas combien d'entre vous avez fait l'armée, puisque c'est plus obligatoire aujourd'hui, mais je l'ai fait. Et dans mon expérience de l'armée, lorsqu'un ordre est donné, il est exécuté. Lorsque le capitaine disait « Demain matin, rassemblement des troupes à 4 heures du matin », il n'avait pas besoin de se lever, lui, à 3 heures, pour s'assurer que le lieutenant ou les sous-officiers faisaient bien le nécessaire pour préparer les troupes à se lever à temps pour se présenter. Non. Les troupes seront là à 4 heures parce que ça avait été déterminé, ça avait été décidé. Il avait donné un ordre et il savait que cet ordre serait exécuté. Alors ce centurion romain avait 100 soldats sous ses ordres. L'armée romaine était une des armées les plus disciplinées qui puisse être. Son obéissance, sa discipline faisait sa puissance. Et bien dans notre texte, le centurion applique simplement ce principe d'autorité et de puissance à Jésus-Christ lui-même. Il avait entendu dire ce que Jésus était capable de faire. Il savait qu'il avait l'autorité de chasser les démons, de guérir n'importe quelle maladie, même de ressusciter des morts. Alors quand il est question de la guérison avec Jésus, il savait aussi que c'était instantané. Pas comme certains guérisseurs qui ont soi-disant le pouvoir de guérir une personne sur 10 ou sur 100 quand la guérison dure. Quand on parle de guérison dans l'Écriture, on ne parle pas de Lourdes, qui voit peut-être un cas de guérison sur des milliers de pèlerins qui repartent chaque année aussi handicapés qui sont arrivés. Non, quand Jésus parle de guérison, c'était immédiat et c'était sa réputation. Jésus, tu n'as pas besoin de venir chez moi. Ta puissance est telle qu'il te suffit de dire un seul mot et je sais que mon serviteur sera guéri. Mes amis, ce centurion fait un lien extraordinaire ici. En tant que centurion, quand il donne un ordre, il est exécuté parce qu'il représente Rome et Rome est tout puissant. Jésus, il te suffit de dire un mot et il sera exécuté, impliquant quoi? Tu représentes la toute-puissance. Personne, pas un homme ne peut faire ces choses-là. Il n'avait pas besoin d'en savoir plus long. Il n'avait pas besoin d'un cours de théologie. Il n'avait pas besoin de faire une faculté de théologie pour comprendre cela. Il tire des conclusions basées sur ce qu'il savait de Jésus. Vous vous souvenez que Jésus était constamment entouré de gens qui voulaient toujours voir plus de miracles, mais qui restaient incrédules vis-à-vis de Jésus. Et là, je vous renvoie au dernier sermon que j'ai prêché ici. Ce centurion est un peu un bol d'air frais pour Jésus. Enfin, quelqu'un qui fait un lien entre les choses que Jésus fait et qui il est. Enfin, quelqu'un qui croit réellement. Alors Jésus dira, « Je n'ai pas rencontré en Israël un homme avec une si grande foi. » Passons à l'autre narration, celle de Marc 4, 35-41. Les disciples de Jésus traversent la mer de Galilée. Toute la journée, ils ont entendu Jésus enseigner la foule. Ils ont plus d'informations sur Jésus que quiconque. plus d'informations sur Jésus et la parole de Dieu, et ils ont vu des miracles. Ils traversent cette mer, une violente tempête les surprend, et Jésus dort tranquillement. Alors qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Ils ont déjà tant vu. Vous vous souvenez, ils ont vu la multiplication des pains. Guérison multiple. Ils ont vu l'eau changer en vin. Et sûrement beaucoup plus, parce que l'Écriture dit que Jésus a fait beaucoup plus de miracles qui ne sont même pas rapportés dans l'Écriture. Mais là, avec tout ce qu'ils savent de lui, ils doutent. Ils doutent de son amour et de sa bienveillance. Jésus, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Ils doutent de sa sagesse ou de son omniscience. Ne pouvait-il pas prévoir une telle tempête? Et si oui, pourquoi est-ce qu'on est parti? Ils doutent de sa toute-puissance. Nous périssons. Jésus se réveille, donne un ordre au vent et au flot, et tout se calme. Et Jésus se tourne vers ses disciples, et il leur pose la question, pourquoi avez-vous peur? N'avez-vous point de foi? Alors quel est le problème des disciples? Bien, ils n'ont pas fait l'équation que le centenier romain avait faite. Vous savez, dans la panique, ils n'ont pas tiré, et ça nous arrive malheureusement, ils n'ont pas tiré les conclusions logiques en fonction de ce qu'ils savaient de Jésus. Dans le feu de l'action pris par nos émotions, dans l'épreuve, dans la difficulté, ce n'est pas toujours facile d'appliquer ce que nous savons est vrai. Je ne sais pas si vous avez vu cette publicité il y a quelques années dans à CNN, mais il y avait une grosse publicité qui disait « Je sais, donc je suis ».« Je sais, donc je suis ». Est-ce vrai? Sommes-nous vraiment ce que nous savons? Ou sommes-nous parce que nous mettons en pratique ce que nous savons? L'exercice de la foi. Les disciples en savaient beaucoup plus sur Jésus que le centurion. Ils avaient vu les miracles de Jésus. Le centurion a seulement entendu parler de Jésus. Pourtant, leur foi est petite et celle du centurion est grande. Leur foi est petite parce que leur connaissance de Jésus est peut-être restée trop au stade de l'observation. La foi du centurion était grande parce que sa connaissance est immédiatement appliquée. C'est un petit peu même mon propre témoignage. Je me souviens que lorsque j'ai fini l'armée, je suis parti à Nogent-sur-Marne pensant que pour me convertir, j'ai besoin de plus de connaissances. Si je veux faire une faculté de théologie, je vais avoir tout ce qu'il me faut pour vraiment mettre ma confiance en Jésus-Christ. Et après une année à Nogent, j'ai réalisé que j'en savais déjà bien suffisamment, que le problème, c'était pas plus de connaissances de Dieu, mais c'était un problème de confiance, de consacrer ma vie, de mettre une confiance totale dans la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. On n'aura pas plus de foi en étudiant la théologie, en prenant des cours d'apologétique, ou plus de prières, ou plus d'études de la Bible. Ces choses sont bonnes. Ces choses sont même très importantes. Mais elles ne vont pas augmenter notre foi. Notre foi sera grande et elle augmentera lorsque, où nous en sommes aujourd'hui, avec les connaissances que nous avons aujourd'hui, nous plaçons notre confiance seule et toute notre confiance seule dans Jésus-Christ et dans ce qu'il a dit. Je n'oublierai jamais cette femme que nous avions connue lorsque nous avons créé une autre église à Montréal. Elle s'appelait Thérèse et elle avait été trompée, elle et son mari, pendant des années par les Mormons. Et un jour, elle se retrouve dans notre salon cherchant la vérité. Alors après quelques heures de partage de témoignages de l'Évangile, Thérèse et son mari prient avec nous pour recevoir Jésus-Christ comme leur sauveur, comme leur maître, l'assurance de la vie éternelle, des gens transformés. Et peu de temps après, Thérèse apprend une terrible nouvelle. Elle a un cancer très avancé, il lui reste que quelques mois à vivre. Les Mormons viennent à sa porte et lui disent « Dieu te punit », imaginez cela. Notre jeune paroisse avait seulement 2 ans d'existence et c'était un coup dur. Mais je peux vous dire que parmi tous les membres de cette jeune paroisse, certains d'entre nous étant chrétiens depuis de nombreuses années déjà, la foi de Thérèse nous dépassait tous. Durant ses nombreux séjours à l'hôpital, elle rayonnait de lumière du Christ, au point où les infirmières et les médecins qui s'occupaient d'elle nous disaient On n'a jamais vu cela. Thérèse avait une telle confiance dans les promesses de Jésus, l'assurance de son salut, l'assurance que quoi qu'il arrive, Dieu ne la décevra pas. L'assurance que Dieu s'occuperait de son mari et de son enfant. Rien ne l'ébranlait. À chaque visite, elle me bombardait des questions, mais même sans toutes les réponses, sa foi était grande. Et j'ai remarqué quelque chose. Si j'avais un verre d'eau ici, et j'avais l'intention de remplir un, mais je suis arrivé trop tard. Mais voilà, imaginez un verre d'eau moitié rempli. Il est à moitié plein ou est-ce qu'il est à moitié vide? Imaginez, à moitié, au milieu. Moitié plein ou moitié vide? Votre réponse dépendra de la partie sur laquelle vous décidez de fixer votre attention. Si vous fixez votre attention sur la partie vide, vous direz que ce verre est donc à moitié vide. Si vous fixez votre attention sur la partie moitié pleine, vous direz que ce verre est à moitié plein. Bien de même, nous pouvons nous attarder sur ce que Dieu n'a pas encore fait pour nous, ou sur nos questions restées sans réponse, ou nous pouvons nous attarder sur ce que Dieu a déjà fait pour nous. Et ça, c'était le secret de Thérèse. Elle ne s'attardait pas sur le côté moitié vide du verre qui correspondait pour elle aux nombreuses questions pour lesquelles elle n'avait pas de réponse. Son cancer laissait derrière elle un petit garçon de 4 ans. Mais elle s'attardait sur le côté moitié plein du verre, sur les promesses de Dieu pour elle et pour son fils. Vous voyez, les disciples de Jésus en savaient plus sur Jésus que le centurion romain. Mais ils se concentraient sur les circonstances qu'ils traversaient, plutôt que sur Jésus, pourtant maître des circonstances. Alors que le centurion, lui, se concentre sur le maître des circonstances, plutôt que sur la circonstance elle-même. Il fait immédiatement le lien. Jésus représente la toute-puissance. Donc, pour qui rien n'est impossible, s'il le veut, il te suffit, Jésus, de dire un seul mot, et mon serviteur sera guéri. Dans Matthieu 9, 27 à 30, il nous est aussi rapporté une autre histoire, l'histoire de ces deux aveugles qui suivent Jésus en criant « Aie pitié de nous !» Jésus semble les ignorer, et il les laissa suivre et crier jusqu'à ce qu'ils soient rendus dans une maison. Et là, enfin, il leur adresse la parole « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» « Oui, répondent-ils. » Alors ils touchent à leurs yeux en disant « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. J'entends dire si souvent « Oh, je sais que Dieu peut faire cela pour moi, mais... » Le « mais », c'est souvent la moitié vide du verre d'eau. On a beau savoir que Dieu peut le faire, en même temps, en réalité, on n'y croit pas vraiment. Parce qu'on a choisi de regarder la moitié vide du verre. Croyez-vous que je puisse faire cela? Ces aveugles savaient très peu, eux aussi, sur Jésus, mais comme le centenier, ils avaient entendu parler de lui et ils voient le verre moitié plein. Alors j'entends souvent dire, oui, mais c'était facile pour les disciples de Jésus de croire. Ils étaient les témoins oculaires, ils ont vu tous les miracles. Moi, si je voyais ce qu'ils ont vu, je croirais, mais ni les aveugles, ni le centurion n'ont vu les œuvres de Jésus. Ils ont cru seulement ce qu'on leur avait dit. Et ils ont eu une plus grande foi que les disciples qui pourtant étaient avec Jésus du matin au soir, qui avaient tant vu, qui avaient tant entendu. Alors la question pour nous ce soir, et nous aujourd'hui, ne voyons pas Jésus comme un... J'aime vous renvoyer à un texte de 1 Pierre 1, 3, 8. Regardez, écoutez ce texte. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés par une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, par un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni fléchir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Ce Cela, ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore. Alors vous avez peut-être remarqué que dans tous les cas mentionnés ce soir, c'est souvent dans le besoin, dans la difficulté, parfois même dans la tragédie, dans la souffrance, que notre foi est testée et appelée à grandir. C'est relativement facile d'avoir une foi inébranlable quand tout va bien dans notre vie, et si notre foi n'est pas testée, peut-on parler de grande foi? Notre foi ne grandira pas avec plus de connaissance de Dieu, elle grandira avec la pratique de ce que nous savons de Dieu, et ça, aujourd'hui. Nous invitons à la prière. Dieu notre Père, merci pour ta patience. Seigneur, je peux imaginer que si nous avions été à la place des disciples, nous n'aurions peut-être pas fait mieux. Seigneur, à chaque fois que notre vie est testée, donne-nous de voir la moitié du verre qui est pleine, de pouvoir mettre notre confiance dans celui qui est maître de tout, le Créateur, le Rédempteur, qui fait tout parfaitement. Donne-nous, Seigneur, d'avoir la confiance simple et puissante de ce centenier ou de ces aveugles qui ont cru ce qu'ils ont entendu. Seigneur, c'est toi qui dis que ta parole est puissante et elle est suffisante pour nous convaincre, pour nous corriger, pour nous instruire, pour nous fortifier. Qu'elle puisse, Seigneur, faire fortifier notre foi pour que nous puissions grandir dans cette foi que tu nous as donnée et comme un muscle qu'elle puisse se développer et que nous puissions être les balèzes de Dieu. Seigneur, continue dans ta grâce à nous faire grandir. Au nom de Jésus. Amen. Bien, je vous invite à vous lever. Nous allons chanter le cantique numéro 175 pour nous préparer à prendre le repas du Seigneur.